Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Simon. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
Avec plaisir.
Tu es le CEO et le fondateur de Gusti.
C'est ça.
Qui a été créé à l'origine pour permettre d'avoir le temps de manger au restaurant à midi entre collègues.
Exactement.
Grâce aux précommandes.
C'est ça.
Mais tu as fait un pivot.
Oui, pas un pivot définitif. Si tu parles du click and collect, c'est ça?
En fait, j'ai lu que c'est devenu l'outil de gestion du quotidien de nos restaurateurs partenaires.
Ouais. Alors en fait, pour t'expliquer, au départ, l'application, ça sert aux personnes qui n'ont pas beaucoup de temps pour manger à midi, les actifs, que ce soit les employés de bureau, des commerciaux, des techniciens, des ouvriers, de voir autour d'eux les plats du jour qui sont proposés, de manière à pouvoir déjà consulter, parce que si tu veux voir les plats du jour de plusieurs restaurants actuellement, tu dois aller sur le site du resto A, sur la page Facebook du resto B, donc c'est assez compliqué. Là, toute l'offre est centralisée, et en plus, tu peux précommander les plats du jour. Comme ça, quand tu arrives dans le restaurateur sait déjà ce que tu vas manger, et il peut commencer la préparation du plat dès que tu arrives. Donc en fait, tu gagnes 10 à 15 minutes sur ta pause déjeuner. C'est le temps que tu t'installes, que le serveur passe et qu'il te donne la carte, il revient, vous avez choisi, oui, moi, mais pas mon collègue. Donc ça prend du temps. Là, tu arrives, on peut démarrer ta commande dès le départ. Ça, c'est côté user, on va dire, côté des utilisateurs d'application. Et côté des restaurateurs, en fait, Gusti leur permet de mettre des modules de réservation et de commande sur leur site internet, sur leurs réseaux sociaux. On arrive même à le mettre sur le Messenger. Donc quand tu envoies un message au restaurant, il y a un petit message qui apparaît automatiquement. Bonjour, vous pouvez réserver directement depuis ce lien. Et en fait, tout est centralisé sur Gusti. L'avantage aussi pour eux, c'est qu'il y a zéro commission sur les réservations. Et ça leur permet de gérer leur quotidien depuis une seule application.
Et voilà. Ça va, c'est pas trop dur pour eux de gérer leur app parce qu'ils ont... Ils ont une interface à eux, je veux dire.
Ouais, ils ont une interface qui s'appelle Gusti Gestion, qu'ils peuvent télécharger sur l'App Store et le Play Store. Et en fait, ça leur permet déjà tous les jours de renseigner leur plat du jour. Ce qui est bien, c'est que s'ils ont mis les modules sur leurs réseaux sociaux et sur les sites, ils renseignent une seule fois les plats du jour. Du coup, ils sont sur l'application Gusti, sur leur réseau et sur le site internet. Ils gèrent tout du même endroit. Ils peuvent même mettre une quantité de plats du jour, par exemple 20, et qui va s'imputer à chaque fois que quelqu'un réserve. Donc en fait, c'est vraiment une centralisation de tout leur système de commande.
Et c'est pas dur en fait, tu vois, de les aider à mettre ça en place, à les former.
En soi, ce qui est le plus compliqué avec les restaurateurs, c'est qu'ils courent toujours dans tous les sens. Et donc c'est vrai que le temps de leur faire la démo, qu'ils comprennent l'intérêt, qu'ils valident aussi le concept pour le mettre en place, parce qu'en soi, c'est aussi faire confiance à un nouveau système pour gérer leurs réservations, leurs commandes. Donc en général, vu qu'on est sur place, on leur montre aussi qu'on est des locaux, qu'on est là, qu'on aime la restauration, donc ça se passe bien, mais c'est vrai que ça dure. Là, ce matin, on a conclu un partenariat avec le Tapas Café à Strasbourg. C'est la troisième fois qu'on le voyait, et ce matin, je les remercie, ils ont été assez disponibles pendant une heure, mais c'est vrai que ça prend du temps, ça prend pas mal de temps. Après, voilà, c'est du travail d'humain à humain, donc ça fait partie de l'aventure.
Et avant, ça s'appelait Zendej.
Ouais.
Pourquoi t'as changé?
Alors, si tu veux, au tout début, ça s'appelait Optimil. Donc optimisation de la pause déjeuner. Donc j'ai installé ça au restaurant Leca, qui était mon premier client. Super content. Et il m'a dit, ouais, écoute, j'ai juste des clients qui cherchent Optimil sur Google, mais en fait, ils tombent sur des croquettes pour chat. Donc là, je fais, ok, ouais, c'est compliqué. Donc j'ai changé, j'ai fait un brainstorming tout seul, enfin avec mes plusieurs personnalités. Et on a trouvé Zendej, la pause déjeuner zen, tu vois, dans le principe où tu vas en fait précommander ton plat du jour. Donc c'est une vraie décharge mentale. T'as juste arrivé au restaurant pour manger. Donc c'était un super nom, tout le monde a adhéré. Et un jour, il y a mon comptable et mon avocate qui m'ont dit, mais par contre, est-ce que tu connais Zenchef? Je fais, oui. Ça ressemble un peu au niveau du nom. Ouais, mais on ne fait pas du tout la même chose. Ils ont dit, ouais, mais ça va être compliqué de scaler ton application en gardant ce nom-là. Donc j'ai dit, ok, on va changer de nom. Et du coup, il y a une grosse, grosse, grosse réflexion avec une agence de com aussi qui m'a bien aidé. Et du coup, Gusti, si tu veux, c'est gustatif et tasty en même temps. Donc c'est un nom qui est un petit peu... Le but, c'est pas de s'exporter international, mais qui est plus évocateur et plus utilisable à grande échelle.
D'accord. Et pour revenir au restaurateur, comment toi, tu les choisis? C'est toi qui dis, j'aime bien cela, je vais d'abord commencer parce qu'il faut commencer à quelque part.
Ouais, clairement. Alors, si tu veux, moi, il y a 3 ou 4 ans, je travaillais pour une société de l'alimentaire que je ne vais pas citer. Je vendais en fait des glaces sur un secteur de Célestat à Nancy. Et je devais viser les restaurants à gros potentiel de glace. Donc en fait, je suis allé voir quasiment tous les restaurateurs de toute l'Alsace-Lorraine. Donc j'ai des connaissances et surtout, c'est clair, c'est au niveau de l'affinité. Il y a des restos, j'ai envie de bosser avec eux, c'est un plaisir d'échanger avec eux. Il y en a d'autres où voilà, ça se passe moins bien, mais c'est normal, on est des humains. Mais par contre, bah, à partir du moment où la personne est intéressée et motivée pour mettre ça en place, bah, ça se passe toujours bien, c'est qu'on a trouvé un intérêt commun, donc on installe ça ensemble, quoi.
Les premiers restaurateurs, ça va être un peu tes ambassadeurs, quoi.
Et oui, c'est très juste parce qu'en fait, les premiers restaurateurs, le but, c'est que aussi eux vont simplifier leur communication avec leur propre clientèle, parce qu'en fait, les restaurateurs, ils passent leur vie au téléphone. Et en fait, t'as qu'une seule ligne téléphonique, donc bah, si quelqu'un appelle, que l'autre veut réserver en même temps, ça se confronte. Là, avec Gusty, les réservations en ligne, c'est 24 heures sur 24 et il peut en avoir 100 en même temps. Donc ça leur permet vraiment de simplifier leur communication. Et en plus, les personnes, leurs clients qui utilisent Gusty pour réserver, ça leur crée un compte Gusty, donc ils peuvent chatter directement avec le restaurateur, utiliser toutes les fonctionnalités. Et nous, ça nous permet d'avoir des nouveaux utilisateurs par ce biais-là. Et c'est d'ailleurs une des raisons principales pour laquelle je ne prends pas de commission sur les réservations. Parce que je ne vais pas prendre des commissions sur une personne, déjà c'est ses propres clients, et en plus, nous, ça augmente notre communauté.
C'est quoi ton business model alors?
Business model, c'est des abonnements. Des abonnements par mois, c'est-à-dire qu'on a deux formules principales. Une formule à 65 euros par mois hors taxe, sans aucune commission, où en fait ils sont référencés sur l'application et on leur donne justement les modules pour leur site internet et pour leurs réseaux sociaux. Ça, c'est à 65 euros par mois. Et on a aussi une formule à 150 euros par mois. En fait, c'est pour les restaurateurs qui n'ont pas de site internet ou le site internet n'est pas optimisé. On leur crée un site internet à leur couleur et dessus, bah, du coup, il y a les modules de réservation de commandes. Donc, en fait, ils ont un package à 150 euros par mois, tout inclus. Référencement sur l'appli, site internet, module, sans commission.
Et t'as mis du temps avant de trouver cette idée?
L'idée ou le pricing?
Le pricing plutôt, enfin.
Oui, parce que bah, si tu veux, tu navigues à vue et en fait. Tu as beaucoup d'idées quand tu es start-upper ou entrepreneur et tu te rends compte souvent que tes idées sont décorrélées du marché. C'est-à-dire, tu vas voir les restaurateurs, leur dire ah, c'est un super truc. Et en fait, il y en a qui te disent bah, moi, je préférerais payer plus de commissions, mais pas de fixes. Donc, c'est toujours compliqué. Il faut trouver le juste milieu, mais surtout, il faut trouver la solution qui va convenir au plus de monde. Parce que tu pourras jamais séduire tout le monde. Donc, autant correspondre déjà à ta cible principale et ensuite avoir un business model qui est viable pour eux et pour toi.
Tu vois, avec toutes les applis qui existent, Uber Eats, Deliveroo,
Ouais.
après toi, tu viens avec une appli, ils sont pas genre submergés?
Si, en fait, c'est un des. Il y a deux réponses à cette question. Premièrement, ils sont harcelés au téléphone. Tu vois, moi, je vois des restaurateurs, bah Hugo qui est en stage chez moi, qui fait un super stage. Souvent au téléphone, tu sens que tu les embêtes, mais je lui dis ne le prends pas personnellement, parce que c'est des personnes qui sont harcelées toute la journée, on veut leur vendre des choses. Donc insiste sur le fait qu'on est locaux, qu'on peut venir les voir, qu'on met ça en place, qu'on les connaît, enfin qu'on les connaît, qu'on connaît notre région, qu'on l'aime. Et là-dessus aussi, on est labellisé par la région Grand Est, dans le cadre du programme Transformation Digitale. Donc ça, c'est aussi un gage comment dire, de sérieux et de, comment dire, ça nous apporte une crédibilité pour une start-up, quoi. Tu vois, c'est cool.
Ouais, parce que je me dis que si tu as toutes les tablettes
Oui.
et en plus tu as ça qui vient, enfin tu dois aussi être submergé par le temps en fait.
Ouais, en soi, ça c'est une chose qui revenait beaucoup, mais j'ai l'impression que là, depuis que les restaurants réouvrent, en fait, ils vont de plus en plus calmer le click and collect et surtout la vente à emporter pour deux raisons. C'est que gérer les deux en parallèle, c'est assez compliqué, ça nécessite une vraie organisation. Et surtout que je citerai pas les marques, mais on les connaît tous, les plateformes prennent en général 30% de commission sur le chiffre d'affaires. Ils prennent 500 euros d'installation, donc au final, le restaurateur, à la fin, il reste rien pour manger.
Ah, je savais pas qu'il prenait
Ah
autant.
si, c'est vraiment énorme, c'est énorme. Donc ça leur a permis de continuer à faire tourner la cuisine pendant les confinements, mais en attendant, voilà, moi j'ai déjà des restaurateurs qui m'ont dit, il y a des clients qui viennent avec cette plateforme-là que je ne citerai pas, ça me coûte 2 euros par couvert, donc s'ils viennent à 4, ça me coûte 8 euros, et en plus, bah, pour être attractif dessus, il faut que je fasse moins 30% de réduction. Donc il m'a dit, je leur donne un billet de 5, je leur dis, allez manger au McDo, ça me coûte moins cher que de vous faire manger moi-même. Et là, tu te dis, punaise, il y a quand même un gros problème. Et en fait, les gens sont devenus dépendants de ces plateformes. Ce qu'ils disent, ouais, ça me rapporte du monde. Mais en fait, ils rentrent dans la course au prix. Et tu sais ce que ça donne quand tu as une course au prix, c'est que tu négliges la qualité, tu négliges tes clients. Il y a plein de restaurateurs qui ont dit, on en a ras-le-bol, on ne veut plus travailler avec eux. Et c'est justement quand ils voient Gusty, ils plébiscitent ce type d'initiative où voilà, chacun doit gagner sa vie. Donc on n'est pas gratuit, on n'est pas à l'abbé Pierre. Mais on a un système qui leur permet de s'en sortir largement. Et nous aussi, on s'en sort.
Ouais, on va dire que peut-être le fait d'avoir testé et d'être rendu compte que ça marchait pas, c'est peut-être plus favorable à toi.
Bah que ça marche pas, ça dé... tu
Bah,
parles
c'est-à-dire qu'ils sont
de...
déjà ouverts à se
Ah
digitaliser,
oui,
mais
ouais,
vu
bien
que leur
sûr.
expérience utilisateur n'était pas bonne sur les
Ouais.
autres applis, ils se disent, ouais, ce serait bien qu'il y ait autre chose, et toi, t'arrives, tu fais, j'ai une autre solution, bonjour.
C'est ça, j'ai une autre solution qui est locale aussi, qui est en perpétuelle évolution, parce qu'on en est au démarrage, même si l'appli est sortie, la V1 est sortie en février 2020. On évolue tout le temps, on a une techno de développement qui nous permet d'itérer et de faire des modifications assez rapidement. Et en fait, on a co-construit le produit avec nos clients. Et ça se ressent quand on fait des UX feedback, quand on invite nos utilisateurs, nos restaurateurs à tester l'application. Il y a des choses, ah ouais, c'est top que vous avez mis ça. Et ça nous fait plaisir parce que c'est des choses qu'on n'avait pas au début. Et c'est des restaurateurs qui nous l'ont conseillé, qui nous ont dit, ce serait bien de faire ça comme ça. Donc voilà, on évolue avec nos clients, nos clients évoluent avec nous.
Ah, c'est comme ça que tu trouves le bon product market fit.
Exactement, exactement.
Moi, je voulais savoir, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur toi.
Ouais, ok.
Je crois qu'en relation presse, on n'a pas fait beaucoup encore
Non, j'ai pas misé du tout. Non, non. Je communique
là-dessus.
très peu, beaucoup par LinkedIn, mais c'est vrai que je me mets pas forcément en avant. Plus que ça, non.
Après, c'est un choix,
Ouais,
hein.
bien sûr. Bah, oui. Depuis hier, il y a ma photo sur le site gusty-app.fr. J'ai mis du temps à la mettre parce que je sais pas. Je trouve que c'est un travail d'équipe. Je dis pas ça, c'est un peu bateau, mais vraiment, tu vois, s'il y avait pas mon équipe avec moi, je serais pas là où je suis. Donc, je vois pas pourquoi moi je me mettrais en avant. Et je préfère que Gusty soit mise en avant, tu vois.
Je voulais justement savoir si tu as toujours voulu être entrepreneur.
Ouais. Depuis, enfin toujours, oui. En fait, si tu veux, pour être très franc avec toi, j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de problèmes dans mes rapports avec l'autorité. Je fais du handball depuis que j'ai 3 ans. Je pense qu'il y a eu un coach dans ma vie avec qui j'ai dû m'entendre. Les profs au collège, voilà, c'était un petit peu pareil. Mais j'ai su rapidement que j'aime pas qu'on me donne des ordres. Donc j'ai su rapidement que je voulais entreprendre. Et bah, j'ai créé ma première société, DigiWork, qui est encore en activité, au mois de mai 2018. Et là, j'ai découvert ce que c'était la vie, la vraie. C'est bien que personne te donne d'ordre. Par contre, c'est débrouille-toi. Ton calendrier, il est vide. Prends des rendez-vous. Il faut faire de l'administratif. T'as un comptable, mais il va pas te faire pour toi. Donc, tu découvres vraiment la vie. Et c'est assez intéressant. Je trouve que là, j'ai 30 ans depuis le 22 avril. En 3 années d'entrepreneuriat, j'ai appris, pour moi, l'équivalent de 10 années si j'avais été salarié, sincèrement.
Oui,
C'est une
parce
belle
que
aventure.
t'es lâché, quoi. Personne te dit faut se réveiller, faut
Exactement.
venir, faut faire ci, faut faire ça.
Et ça, c'est important ce que tu dis, parce que en toute transparence, moi, au tout début, en fait, j'ai eu la chance, enfin, j'ai réussi à avoir un gros client dès le départ sur DigiWork. Voilà. Donc, ça m'a beaucoup aidé pour la trésor. Et en fait, je me suis un peu reposé là-dessus, parce que j'avais pas de bureau, je travaillais de chez moi. Donc, quand tu travailles de chez toi, que tu as de l'argent qui est rentré, et que bah, c'est dur de se motiver, en fait. Et il y a eu plusieurs semaines où bah, j'étais pas du tout motivé. Et là, tu te dis, ouais, mais c'est pas une situation définitive, faut quand même que tu commences à cravacher. Et c'est dur de se motiver, sincèrement. C'est dur.
Pourquoi beaucoup de personnes vivent mal leur aventure entrepreneuriale? Parce que ouais, faut se motiver au quotidien et il y a des phases de down et c'est comme ça et c'est dur à accepter.
C'est surtout dur quand tu es isolé. Parce que moi, je te parle là, comme dit, j'étais tout seul. J'avais pas d'associé, j'avais pas de réseau. Par exemple, là, je suis incubé à Semia, qui est un super réseau. J'étais pas du tout incubé à Semia. J'étais à 1 000 km de là, d'ailleurs, enfin, d'être incubé. Et c'est l'isolement, en fait, qui était très, très dur à gérer. Et ça, il y a beaucoup de personnes, que ce soit des chefs d'entreprise ou même des freelances. J'ai vu, parce que je vais me marier, le photographe de mon mariage m'a dit que malheureusement, à cause du Covid, il a dû reprendre une activité salariée. Et il m'a dit en soi, il a redécouvert ce que c'était d'avoir des collègues. Et c'est vrai que quand t'es seul, c'est un truc, tu te rends pas compte, mais t'as la tête dans le guidon, tu fais rien d'autre, métro, boulot, dodo, et encore, si t'as pas de locaux, t'es à la maison tout le temps. Et ça, c'est dur.
Ouais, c'est ce que je vis, mais ça, je me suis
Ouais,
habituée.
c'est vrai?
Ouais, moi, ça va en fait.
Après, ça dépend des personnalités, je pense aussi.
En fait, c'est souvent ça. Quand je dis, ouais, t'as toujours voulu être entrepreneur, tout le monde me dit, ah, j'ai du mal avec l'autorité, c'est pour ça que je suis devenue
Ouais.
entrepreneur. Ça m'énerve qu'on me donne des ordres.
Bah en soi, pour être sincère avec toi, moi quand j'étais salarié, j'étais largement mieux payé que là actuellement depuis que je suis entrepreneur. Parce que je travaille, je sais pas, j'en ai aucune idée, mais je travaille je peux dire comme un débile, parce que j'aime ce que je fais. Mais je travaille énormément, ça me prend beaucoup de charges aussi émotionnelles, de l'implication. Et oui, voilà, bah, quand j'étais salarié, j'étais commercial, j'étais assez performant. Donc niveau rapport ton travail, argent gagné, voilà, tu fais pas ça pour l'argent, pas tout de suite, parce que t'appelles Elon Musk et encore. Je pense qu'il a pas tout de suite fait le million. Mais ouais, être salarié, ce qui est bien, c'est la sécurité de l'emploi, c'est d'avoir un salaire fixe, enfin un salaire qui rentre de manière récurrente, quoi.
Et tu m'as dit que ben, t'allais te marier, t'es en couple, et justement, elle comprend, elle te soutient, parce que c'est pas évident.
C'est pas évident et je la remercie, Florence, parce que ouais, c'est vrai qu'il y a eu des gros, gros, gros moments. Bah, tu sais qu'il y a eu 3 confinements, donc quand tu lances ton app dans la food, c'est des moments très durs pour toi. J'ai jamais été en dépression, mais c'était des moments très durs où elle a été là pour moi et surtout elle est très compréhensive. Et on a une petite qui s'appelle Elodie, et du coup, bah, moi le soir, je rentre à 19h, 19h30, 20h, et Flo, elle s'occupe d'Elodie, c'est génial. Et franchement, ouais, si j'avais pas Florence dans ma vie, je pense que j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui.
Tu penses t'auras abandonné?
Difficile à dire, difficile à dire. Il y a plein de fois où j'étais dos au mur et j'ai jamais pensé à abandonner. Mais je me disais toujours que j'aurais un plan B, quoi qu'il arrive. Je m'en suis toujours sorti. Donc je pense pas que j'aurais abandonné, mais je pense que j'aurais vécu la chose différemment avec une autre sensibilité. Parce que quoi que tu puisses dire, puis ça, si t'es pas parent, tu peux pas le comprendre. Mais on m'a dit plein de fois, tu verras quand tu seras parent, ça marche dans 40 ans. Mais quand t'es parent, tu vois les choses quand même sous un autre angle.
C'est-à-dire?
Tu vois les choses différemment, avec, je sais pas, c'est de la sagesse, du recul ou quoi, mais moi j'ai vraiment changé de point de vue depuis que Elodie elle est venue au monde au mois d'août 2019, et ma sensibilité au monde a changé, tu vois. Je me trouve plus bienveillant, je me trouve, je sais pas, je suis différent, et dans le bon sens du terme, tu
Et c'est quoi la première pierre de Gusty? T'as fait quoi? T'es allé d'abord chez les
vois.
gens,
Ouais.
t'as monté une app, après t'as montré.
Alors, chronologiquement, Gusty, je pense j'ai eu l'idée il y a 8 ans. Comme dit, quand j'étais commercial, je savais jamais où manger entre mes deux rendez-vous. Je me suis dit, ouais, ce serait génial d'avoir une appli où tu peux avoir les plats du jour autour de toi, précommander, etc. J'en ai parlé aux gens, ils m'ont dit, ouais, ben, combien de fois moi j'ai mangé un sandwich sur la route, si tu faisais ça, ce serait génial et tout. Donc l'idée, elle a fait son bout de chemin. J'avais de la trésor sur DigiWork. Et il y a un mec de Semia, David Michelet, que je remercie encore, qui m'a dit, bah écoute, voilà, si tu veux créer une app rapidement et pas trop cher, tu peux passer par une boîte à Paris, qui s'appelait Intrafunders à l'époque, que je remercie aussi, qui s'appelle Cube actuellement. Et en fait, ils m'ont fait le MVP de Optimil à l'époque en un mois. En un mois. Je suis allé voir des restaurateurs avec, dont Restaurant Lucas. Je lui ai montré, a dit ouais, c'est toi, vas-y, go. Donc voilà, première pierre.
D'accord. Un rapide, quoi.
Ouais, plutôt rapide. J'ai toujours été assez, pas impulsif, mais je veux dire, quand j'aime faire quelque chose, je me lance, je le fais, je mesure d'abord, toujours, je mesure les choses. On maîtrise jamais tout, mais je veux dire, je suis convaincu, j'étais déjà convaincu à l'époque du concept. Les utilisateurs étaient convaincus, les restaurateurs étaient convaincus, je me suis dit, mec, faut y aller, quoi.
Et donc là, t'as combien de restants?
Là, actuellement, on a une vingtaine de restos sur Strasbourg. En sachant qu'on a fait une opération aussi qui permet pour la réouverture des restaurants, un petit peu en solidarité, de leur permettre de référencer leurs plats du jour gratuitement sur l'application. En fait, eux, ça leur permet de donner de la visibilité à leurs plats, ça leur permet aussi de tester les fonctionnalités de Gusty, et nous, ça permet d'apporter de la diversité à nos utilisateurs.
En start-up, tu t'y connaissais?
Pense que tu t'y connais jamais vraiment en startup, même après avoir créé une startup, mais l'expérience que j'avais sur DigiWork m'a permis d'éviter certains pièges, notamment au niveau de la trésor, te dire waouh, il me manque 50 000 euros sur mon BP. Bah écoute, je vais rajouter des ventes par-ci par-là. Non, ça marche pas comme ça. Les ventes, c'est très dur à avoir, surtout au début quand on ne te connaît pas. Donc ça m'a permis d'éviter de faire des BP où ouais, on est multimillionnaire au bout de la première année. Ah, ça marche. Attends, enlève ton Excel. Et aussi au niveau de la réalité, de la perception des coûts de la vie, parce que quand j'étais salarié, j'étais assez râleur. Je voulais ma bagnole, je voulais mes tickets, enfin ma participation au repas, etc. Et tu te rends pas compte à quel point les employeurs, ils raquent pour ça, ils raquent pour l'agence, ils raquent pour la mutuelle, ils raquent pour plein de choses. Et ça, quand tu es à la tête de ta boîte, tu t'en rends compte au fur et à mesure. Hein. Et même quand tu veux te payer un salaire à toi-même, tu te dis, ah ouais, ça coûte quand même cher de payer un salaire, quoi.
Ben oui, c'est ça. Et on m'a dit, quand tu as un employé, en fait, tu comptes tout. Enfin, le bureau, même le café, t'estimes le temps aux toilettes, les toilettes,
Ouais.
enfin, tout. Et en fait, je me rendais pas compte que oui.
Après, le temps aux toilettes, je suis pas allé aussi
Non, pas le
loin,
temps, mais genre
mais.
l'utilisation du papier toilette et tout.
Ah,
Enfin,
ça,
vraiment,
ouais,
enfin, il
oui.
faut une énorme moyenne, en fait, sur tous les coûts.
En soi, les postes qui sont vraiment. Qui sont lourds, c'est. Ouais, salaire, c'est aussi la compta, la gestion sociale, les fiches de paye, les mutuelles, c'est des choses que tu vois pas au début. Et c'est vrai que ça, mis bout à bout, ça fait un paquet de pognon à sortir à la fin du mois.
Et au bout de combien de temps t'as pris ton premier salarié?
Bah là, c'est hier, j'ai envoyé la promesse d'embauche. Bah moi, j'étais mon premier salarié sur DigiWork, donc là, je me suis déjà rendu compte le coût du travail. Et là, je vais embaucher ma première salariée, je vais lui mettre une voiture, etc. Donc, je vais encore m'en rendre compte encore plus, je pense.
La personne qui développe Nancy?
Oui, c'est
C'est
ça, ouais.
ça? Ouais.
Jennifer. Ouais.
Et ton objectif, c'est quoi pour Nancy? Avoir combien de restos? Enfin.
Alors, mon objectif pour Nancy, c'est déjà que Jennifer arrive à s'épanouir dans ses missions, et ça, j'en suis convaincu parce qu'on a longuement échangé et elle a un top profil. L'objectif pour Nancy, j'aimerais bien que par mois, il y ait entre 4 et 5 nouveaux restaurants qui soient référencés sur l'appli.
Et à Strasse, pareil.
À Strasse, j'aimerais bien. Alors, j'ai deux objectifs. Le premier, c'est d'avoir 80 restaurants clients d'ici la fin de l'année. Ça, c'est un objectif que j'avais mis en place, que j'avais estimé au mois de décembre, sans savoir qu'il y aurait un confinement, enfin, une réouverture très tardive. Donc, pour cette année, je me permets encore de voir où ça nous mène. Pour l'instant, ça va très bien. Et la deuxième chose, c'est que j'aimerais bien proposer aussi plus de densité géographique, c'est-à-dire que sur un axe de Célestat à Haguenau, on est au moins 3 restaurants sur 10 km linéaires, par exemple pour les gens qui sont en déplacement, de se dire, bah voilà, j'ai un rendez-vous à Haguenau à 10h, j'ai un rendez-vous à Célestat à 14h, qu'ils puissent voir sur la route, ah bah voilà, il y a un restaurant à Plopsheim qui propose en plat du jour un cordon bleu, ça me plaît, je vais réserver, j'ai plus qu'à arriver sur place, puis on me sert en peu de temps, quoi.
En faisant quoi? Une map alors?
Ouais, c'est une des prochaines features qu'on va mettre sur l'appli, c'est d'avoir une vision map des plats du jour.
Ouais, tu vois où c'est exactement
Ouais,
quoi.
c'est ça, exactement.
Ouais, est-ce qu'il y a aussi genre l'itinéraire que tu veux mettre alors?
Ça, c'est marrant que tu me parles de ça parce que c'était l'idée initiale vraiment. C'était
Ouais.
l'idée initiale, tu mets ton itinéraire et on te dit, bah voilà, sur ta route, il y a ces restaurants-là qui proposent ces plats du jour. Donc ça, par contre, il faut faire appel à une API avec Google, etc. Donc c'est des choses qui peuvent coûter cher parce que tu payes en fait les requêtes. Donc c'est quelque chose que j'avais budgétisé et mis dans le BP au départ. Mais aujourd'hui, on n'a pas assez de densité de restaurants de toute façon pour le mettre en place.
C'est combien?
Je ne me rappelle plus les
Beaucoup.
chiffres, mais c'est pas beaucoup en soi en unitaire. Mais si tu as, je sais pas, 1 000 utilisateurs ou même 10 000 utilisateurs, ça peut commencer à chiffrer un petit peu sur les requêtes, quoi.
Ouais, donc tu vas faire des choix
Bah pour
drastiques, quoi.
l'instant, de toute façon, on n'a pas assez de densité pour pouvoir proposer cette features. Donc on va d'abord se concentrer sur le choix des restaurateurs. Aujourd'hui, bah tu as vu l'appli avant, on a une liste des résultats qui s'affichent sous forme de liste, comme dit. Tu peux voir les plats du jour, tu peux slider. Donc la vision en map sera, on vise ça pour, je pense, début 2022, ce serait bien. Ouais.
Est-ce que toi, tu prends tous les restaurants ou tu vas goûter un resto, tu regardes un peu ce qu'ils en parlent, ce qu'ils en pensent? Enfin, tu.
Alors j'aimerais pouvoir aller manger dans tous les
Non, mais
restaurants à
même les
qui je bosse.
commerciaux, tu vois.
Comment ça?
Par exemple, Jennifer qui sera Nancy, est-ce
Ouais.
qu'elle doit voir un peu comment ça se passe le restaurant, l'hygiène, enfin.
Alors,
Est-ce que vous avez des critères ou vous prenez tout le monde?
un des principaux critères qu'on a, c'est que le restaurant propose des plats du jour. Parce qu'aujourd'hui, moi j'adore manger dans plein de restaurants, mais par exemple un buffet asiatique à volonté. Il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée de le référencer sur Gusty, parce que Gusty, c'est fait pour voir à l'avance les plats du jour.
Mais il peut pas réserver de toute
Tu peux
façon.
pas. Si tu.
Enfin.
En fait, sur l'appli, tu peux aussi réserver sans précommander. Si jamais tu sais pas
Ouais.
encore ce que tu veux manger, tu dis bah je réserve, je peux manger sur place. Tu peux aussi commander à la carte, tu peux voir la carte, donc en soi. Mais nous, notre propos de valeur qui est central à midi, c'est de gagner du temps. Et à part précommander une formule buffet à volonté, pour le moment, c'est pas forcément les types d'établissements qu'on vise. On se concentre vraiment sur la restauration traditionnelle, la brasserie, les bistrots qui proposent des plats d'uge et qui veulent les faire tourner. Surtout, faut qu'il y ait une volonté du restaurateur de mettre ça en avant, quoi.
Ouais, parce que moi je me dis que c'est quand même mieux de référencer des bons restaurants partenaires que des restaurants
Ouais.
qui sont très mal notés, hygiène douteuse, etc. Enfin, des fois il faut être drastique, tu vois, aussi pour montrer de la qualité au
Oui,
début.
je comprends. Bah, aujourd'hui, si tu veux, les restaurants avec qui je travaille, c'est des restaurants dans lesquels j'ai déjà mangé, c'est des bons restaurants. Enfin, c'est assez
Oui, j'ai regardé
subjectif.
un peu. Non, mais après c'est souvent la vérité.
Ouais, non, mais c'est des bons restos. Mais après, c'est aussi par affinité, tu vois. Toi, moi, je connais beaucoup, beaucoup de restos à Strasbourg. J'ai mangé dans beaucoup de restos. Et c'est vrai que par affinité, et même moi, comment dire, en sélection, même inconsciente. Je vais aller vers des bons restos, tu vois, et que ça va me faire plaisir de travailler, c'est clair. Après, s'il y a un restaurant, qui je suis, moi, pour juger que c'est un mauvais restaurant? Donc, si quelqu'un m'appelle, me dit, ouais, j'ai entendu parler de ton appli, j'aimerais bien référencer mon resto, je peux venir dire, attends, d'abord, je goûte ton
Oui.
plat du jour. Après, à terme, on va intégrer un système de notation dans l'appli où les gens pourront faire un feedback. Voilà, le service est super bien, le plat était super bon. Donc, ça fera une note moyenne qui permettra aux gens de se rendre compte. Mais moi, personnellement, je pense que j'ai pas le droit de dire non, ce resto-là est pas assez bien pour travailler avec moi. Je pense que j'en ai tout mon droit de bosser. Et de toute façon, de manière générale, les restaurants qui font ce type de démarche, de mettre leur plat du jour en avant sur l'appli, c'est qu'ils en sont assez fiers. C'est des bons restos, quoi.
Ouais, c'est des gens qui sont impliqués dans leur.
Ouais, en général,
Je me dis, enfin, je citerai pas plutôt des lieux à Strasbourg
ouais.
qui sont,
Ouais.
mais genre, Non, mais qui, tu vois, qui prennent même pas le temps depuis 5 ans de refaire leur toilette alors que les verrous ils sont cassés, la lumière. Enfin, je pense pas qu'ils ont peut-être l'envie ou le mindset de s'investir là-dedans, en fait.
Après, il y a plein de choses, il y a plein de facteurs. Je peux pas te dire jamais de restaurant, mais je pense que de remettre des restaurants aux normes ou de les rafraîchir, tu sais, des fois, il y a des restaurants qui tournent pas,
Oui.
qui ont pas du chiffre d'affaires,
Mais
donc
là,
ils ont
c'est
déjà
pas
du mal
du.
à se
Là,
payer,
ils
eux.
font resto et tout, mais en
Ouais.
soi, on vient pas pour la restauration.
Ah, ok. Ce type de... Oui, bah après, je... Ouais.
Il y a des lieux en fait où je pense qu'ils s'investissent pas, donc ils investiraient peut-être pas du temps dans une app, quoi.
Je pense que tu as totalement raison. Il y a une image, il y a une image d'un établissement. Le patron, en général, est assez attaché à cette image, ou il peut être plus attaché à la rentabilité. Il y a des profils comme ça aussi, je comprends. Ouais. Enfin, je comprends, je sais que ça existe. Après, tant que tu te casses pas une jambe en allant aux toilettes, ouais, et que c'est pas trop insalubre, c'est vrai que...
Est-ce que tu as eu des moments difficiles ou compliqués pendant que tu as monté Gusty?
Oui, bah oui, carrément.
Si
Bah,
tu peux nous en parler d'un.
comme... toutes les personnes qui ont créé une société en temps de Covid, moi, comme dit,
Ah oui, toi, tu as juste eu le bon moment.
ah, mais le moment parfait, mais c'était aligné.
Pouvais pas mieux se lancer.
Bah, ça faisait 10 ans que j'avais mon idée,
Ouais.
je me suis dit, bah attends, en mars, il y aura le Covid, viens, on lance ça en février, quoi.
De toute façon, il n'y a pas de bon moment. Faut te
Il
lancer,
n'y a
quoi.
pas de bon moment, mais il y en a des mauvais.
Ouais, là,
Il y en
tu
a des
crois que
mauvais.
c'était.
Non, parce que en soi, si tu veux, paradoxalement, ça a permis aux gens d'évoluer aussi dans leur façon de consommer. Ça a permis aux gens de se rendre compte que bah, déjà, il y a plein de personnes qui n'aiment pas appeler les restaurants pour réserver une table. Parce que si tu as le malheur en plus de les appeler au moment du service, les pauvres au service, ils sont débordés, ils t'envoient un petit peu balader. Donc les gens ont de plus en plus digitalisé leur
Ça,
consommation.
c'est bien. Et
Ça,
même les restaurateurs, on est à
et
la
même les
masse
restaurateurs.
en France, par rapport à l'Europe ou au
On était
monde.
très en retard, on était très en retard. C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il y a eu plein d'initiatives de la région et de manière générale des aides qui ont été mises en place.
1 500 euros
Les
aussi.
500 euros chèque France NUM, le programme de transformation digitale de la région Grand Est, pour lequel, comme dit, on est labellisé. Et oui, ça permet aux restaurateurs qui n'ont pas le temps, en fait, de s'intéresser à ces nouveaux outils, qui n'ont pas le temps et qui, par extension, n'ont souvent pas le budget ou pas envie de mettre du budget là-dedans, parce qu'ils ne se rendent pas compte de tout ce que ça peut leur rapporter en sérénité, tout simplement. Parce que moi, je connais des restaurateurs, ils passent leur vie au téléphone. Et ils sont en cuisine en même temps, ils sont en train de faire ça en même temps, donc c'est dur à gérer. Et justement, cette prise de conscience-là et ces aides-là ont permis de faire évoluer le marché. Donc en soi, c'était pas le meilleur moment pour se lancer, mais c'était là, actuellement, on est dans une bonne période. C'est tout ce que je retiens, c'est le présent et le futur. Le
Ouais.
passé, ça fait partie, il faut en tirer les enseignements, présent, futur.
On dirait que tu as surfé sur la vague et tu as continué.
Oui, et là où je suis assez fier aussi, c'est que je les juge pas, mais il y a plein d'applications qui sont nées avec le Covid, qui sont dit, ah ouais, ils ont plus le droit de mettre des cartes, bah tiens, on va leur vendre des QR codes. Ouais, c'est bien les gars, vous répondez à un besoin à court terme, mais derrière, vous apportez très peu de valeur, et puis surtout, vous êtes un peu des vampires, tu vois. Alors que nous, on s'est lancé avant le Covid comment dire, pour un use case qui était bien déterminé et qui est structurel, quoi.
Ben, peut-être qu'ils vont faire page blanche. Ils
Je
vont
sais
peut-être faire
pas,
un pivot.
je leur souhaite pas, mais oui, je pense que s'ils pivotent pas, parce que en soi, moi je propose des QR codes aussi à mes clients, parce que il n'y a pas eu d'évolution technique à faire. En fait, on a réussi à sortir des QR codes très rapidement. En fait, il y a la carte du restaurant qui est renseignée dans Gusty. On sort l'URL, QR code, c'est parti. Mais c'est pas une chose, moi je fais pas de marge dessus. Tu vois, je connais un imprimeur qui fait des stickers, je leur dis, voilà, ça coûte tant et tant, je te mets en contact et voilà, c'est pas là-dessus que je vais faire mon business, quoi.
Bon, après, c'est des business éphémères. Peut-être qu'ils ont envie de
Ouais.
tester une. Enfin.
Bah moi perso, flasher un QR code au restaurant, je vais le dire sincèrement, ça me saoule. Je préfère une carte en main, tu vois, alors que je suis digital à 1000%. Mais je veux dire, ouais, flasher un QR code, des fois, tu sais pas sur quoi tu tombes, t'as la carte à télécharger, le truc c'est pas responsive, c'est pas adapté à ton téléphone, tu dois zoomer, c'est compliqué, tu vois. Même si nous on a adapté l'appli pour que ce soit le plus lisible possible, je veux dire, moi une carte, ça me va bien aussi, tu
Et en parlant de moments compliqués,
vois.
tu
Ouais.
m'avais parlé de ta recherche du CTO.
Ma recherche de CTO, ouais, qui n'est pas un sujet au passé, qui est un sujet au présent.
Tu cherches quoi comme CTO? Je sais que ça a été compliqué, mais toi, tu cherches quoi comme personne en fait?
Alors moi, je cherche une personne déjà, si possible, si elle peut être passionnée de restauration, ce serait génial. Parce que c'est un monde qui est passionnant et qui en même temps est très dur, parce qu'il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de défis. Donc ça, s'il y a une personne qui a une visibilité, enfin qui connaît un petit peu les contraintes des restaurateurs, qui sont vraiment énormes, ce serait bien. En termes du X pour qu'on optimise en fait l'ergonomie de l'app. et quelqu'un qui soit prêt à se lancer dans une aventure à temps complet. Parce qu'aujourd'hui, moi, je t'en avais parlé, ce qui me fait le plus défaut, c'est le temps. Parce que je dois gérer le commerce, je dois gérer la tech. J'ai deux super alternants qui s'occupent de l'appli et du site. Mais derrière, moi, aujourd'hui, je pense que j'ai plus de valeur ajoutée côté bizdev que côté tech. Donc, je cherche vraiment un CTO qui serait capable de nous aider à scaler l'application et à proposer ce genre de features, de la map. Et puis, j'ai une centaine d'autres features. Bon, c'est pas pour faire peur au CTO, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses qui sont sur la roadmap. Mais voilà, il faut quelqu'un qui nous permette d'avancer et qui prenne ça en main, quoi.
Alors, tout le monde n'est pas, ne connaît pas l'univers startup. C'est quoi un CTO exactement?
Alors moi, ma vision que j'ai du CTO, parce que je prétends pas pouvoir définir ce que c'est, pour moi un CTO, c'est une personne qui va arriver dans une aventure, au début ou pas, hein, cofondateur ou pas, qui va dire, écoute, voilà, l'appli, elle est scalée, elle est bien pour commencer. Par contre, il y a des choses à faire, je vais m'en occuper, on va faire des réunions ensemble, voir ce que les clients veulent, ce que tu veux, ce que moi je veux, on va se mettre d'accord, on va avancer ensemble, je m'occupe de ça. Pour moi, c'est ça, c'est la personne, c'est chef of technical office, c'est la personne qui gère la tech, qui s'occupe de ça, toujours en synergie avec tous les autres, parce que c'est tellement important que le côté tech soit en corrélation avec le côté commercial, le côté marketing, parce qu'en fait, ça fait partie d'un tout. Si t'as pas de client, t'as pas de produit, si t'as pas de produit, t'as pas de client.
Il ouais, faut arriver à jouer
Ouais,
sur les deux tableaux facilement.
exactement, exactement, et toujours aller vers l'avant, apporter des améliorations, des nouveautés et faire bouger les choses, quoi. Du coup, oui, j'ai fait appel à quelqu'un. C'est une personne avec qui j'ai beaucoup beaucoup échangé. Le projet l'a séduit très très rapidement. Et en fait, je lui ai dit, bah voilà, moi ce que je te propose, c'est que au départ, tu bosses en tant que freelance, parce qu'il avait une société, tu vois, déjà. J'ai dit, tu bosses en tant que freelance pendant 2-3 mois. Ça nous permet déjà de faire évoluer l'appli. Et ensuite, si tout match, bah, on s'associe. Tu rentres au capital. C'était pas encore déterminé combien, etc. C'était un projet, mais je dis, voilà, comme ça, toi, je te demande pas de travailler gratuitement. Parce qu'il y a plein de CEO qui s'imaginent, ouais, mon projet, c'est meilleur du monde. Les gens font se battre pour bosser avec moi. Bah, non, mec, ton projet, c'est ton projet. Et les gens, bah, ils ont le droit d'être payés pour. Donc voilà, l'application a bien évolué. Vraiment bien. Mais par contre, ça n'a pas matché parce que je pense qu'il y avait des divergences de points de vue qui étaient déjà liées à la tech. Parce que c'est un mec qui, je veux dire, entre 35 et 45 ans, notre techno de développement, c'est Bubble en fait, il connaissait pas vraiment, il n'avait jamais utilisé. Et je pense qu'il n'a pas voulu vraiment faire l'effort de se mettre dedans, tu vois, ce que je peux comprendre aussi. Mais bon, attends, c'était le but de la mission.
C'est
Et
comme
du coup.
accessi pardon, c'est comme accessible.
C'est accessible, il y a plein comment dire, de contraintes de dev que tu n'as pas, mais par contre c'est vrai qu'il y a aussi des limites de l'autre côté, donc il faut trouver le juste milieu. Nous, l'intérêt de cette plateforme en low code, no code, c'est vraiment de pouvoir itérer et tester des choses très rapidement. Si ça marche, on garde, on améliore, ça marche pas, on enlève. Et ça, c'est top.
Bah, c'est vraiment ça le plus de du no code.
Ouais, c'est le plus du no code, clairement. Après, il y a des choses où c'est pas optimisé, par exemple. Moi, personnellement, je vois les temps de chargement. Je les vois
Ouais, j'ai
dix
aussi
fois plus
remarqué.
longs. Ouais, toi aussi, tu vois. Ça, c'est un sujet sur lequel on est en train de travailler, optimiser le chargement. Donc, ça, c'est un petit peu les limites, tu vois. Après, l'objectif, dès qu'on trouve un CTO, ce serait de passer sur une techno, bah, sur du React, en fait, pour pouvoir être plus performant et surtout ne pas dépendre d'une plateforme externe.
Et donc, tu as stoppé le contrat? Non, tu as fini le contrat de freelancing et
Ouais, on
après,
a
tu as dit que
fini
ça
le
pouvait être possible.
contrat. En fait, si tu veux, on avait démarré sur une mission optimisation UX, UI de l'application, donc vraiment le design, l'ergonomie, etc. On était super chaud là-dessus. Et en fait, il s'est avéré que il a plus travaillé sur la structure de l'appli, ce qui était nécessaire, hein, ce qui était nécessaire. Il a changé des choses et ça a pris du temps. Et au final, on est arrivé à un point où on s'est dit, écoute, voilà, on a apporté chacun ce qu'on avait à faire l'un à l'autre, et maintenant, bah voilà, on continue chacun de notre côté, quoi.
Ouais, donc on est d'accord, je pense à tous les deux, ça s'est senti.
Ouais, ça s'est senti, et puis on avait aussi la communication était assez compliquée parce qu'on n'utilisait pas les mêmes codes de communication. Moi, j'avais jamais utilisé Slack, tu vois, lui, il préférait Slack. Moi, je t'appelle, on rate au téléphone, ce que je peux comprendre, ça prend du temps. Mais voilà, il y avait un petit petite différence de communication, des mésententes, et au final, on s'est dit, ouais, ça. C'est voilà, on en reste là, quoi.
Ouais, faut mieux.
Oui, il valait mieux. De toute façon, il valait mieux. Et puis voilà, lui, il a touché son salaire, enfin son comment dire, le tarif qu'on avait défini. Moi, j'ai eu des livrables sur l'appli, je suis content, tout le monde est content. Donc voilà, je tournais vers l'avenir.
Ouais, donc grande recherche quoi.
Bah, grande recherche, oui, j'aimerais bien être plus impliqué. Aujourd'hui, je ne sais pas, en fait, j'ai pas de réseau dans la tech. J'ai demandé à diverses personnes, est-ce que tu connais, nanana. Et puis c'est vrai qu'un CTO, il ne va pas te tomber dessus le matin. Ouais, salut, je suis CTO, enfin, j'ai envie d'être CTO chez toi. Un jour, j'espère que ça viendra, je pense. Je pense que ça viendra, mais je pense qu'il va falloir que je m'implique un petit peu plus dans les recherches, clairement.
Et ça met du temps.
Et ça met du temps, et surtout, vu que j'ai une expérience qui a pas été concluante, bah, j'ai un petit peu peur de m'y remettre, par peur de nouveau m'investir avec quelqu'un, de mettre beaucoup d'espoir dans la personne, et que bon, je pense que je trouverai quelqu'un de très bien, j'espère, mais voilà, c'est aussi un des freins qui fait que je ne suis pas en recherche active, alors que ce serait bien quand même de préparer ça. Ouais.
Moi, je me dis que c'est peut-être plus compliqué de chercher à Strasbourg.
C'est possible, c'est possible. Ben, le but, c'est pas de rester sur Bubble, mais par exemple, rien que Bubble, moi j'ai cherché des freelances sur Strasbourg, parce que j'aime bien travailler avec des locaux, j'en ai pas trouvé. J'en ai peut-être trouvé un, je crois, et encore. Donc déjà, ça, c'est compliqué.
Moi, j'en
Après,
connais un seul à Strasbourg.
en Bubble?
Ouais.
Ouais. Bah, en soi, Strasbourg, franchement, c'est une super ville, c'est une super région, mais je pense qu'il y a quand même une fuite des cerveaux qui va vers Paris. Après, on a des belles boîtes ici, on a des belles startups bah, que tu as interviewées, hein. C'est des gens qui sont de très haut vol. Donc je ne pense pas qu'il y ait que des cerveaux à Paris, je pense qu'il y en a à Strasbourg, mais je pense qu'ils sont souvent en poste. Et du coup, pour débaucher quelqu'un en poste, pour lui dire, écoute, on a un POC, on a 20 clients, vas-y, go, on va se caler tout ça. En soi, à quelqu'un qui peut être dans un moment de sa vie où il a envie de changer, et ce serait ma chance, mais c'est vrai que je peux comprendre que voilà, les gens qui sont à Stras, en général, ils sont en poste.
Aussi, c'est pas très développé encore la culture start-up ici.
Tu trouves?
C'est sûr, j'en ai parlé
Ouais.
avec Rémi,
Ok.
Epopia, Cuit, Scalingo, Yann.
Ouais.
Non.
Bah.
On est bébé. Et en fait, ils se disent, c'est quoi, tu me disais, Yann, qu'il faut 15 ans, il avait je sais plus combien d'années. Et il a dit, bon, encore 5-10 ans et ça devrait aller. Mais ils
Pour.
essayent de devenir plus grands. On est.
Ah, comme ça,
Ouais, non, mais
ouais.
l'univers startup n'est pas, il n'y a pas assez de dev, il y
Ah,
a un
comme
gros.
ça,
Non,
ouais.
mais tout. Il y
Ouais,
a eu
je
un
vois.
problème de, les politiques se sont un peu pris l'univers startup, ça a tout ralenti. Il n'y a pas assez. Il n'y a vraiment pas assez, hein.
Bah, en soi, je comprends ce que tu dis, mais moi, vu que je baigne dedans tous les jours depuis 2 ans, ce serait mentir de dire que je trouve que c'est pas développé, parce qu'il y a quand même des bons réseaux. Après, il y a quand même eu, moi j'ai eu des aides assez considérables qui m'ont beaucoup aidé.
Ah, mais ils essayent de valoriser maintenant, mais ils disent
Ouais.
c'est lent, ça va pas assez vite, on est encore trop petit. Il y a eu qu'un exit et ça sera fait dans 2 ans, derrière 24, tu vois, genre.
Ouais. Je sais pas, moi je suis en fait à un stade où, bon, même si ça fait 1 an que j'ai lancé l'app, je suis encore peut-être trop jeune pour juger, tu vois, enfin trop jeune déjà en âge, j'ai que 30 ans. Et en maturité de la société, ça fait qu'un an. Moi aujourd'hui, je suis content de l'accompagnement que j'ai, je suis très content des aides et des bourses dont j'ai pu bénéficier, ça m'a accéléré. Après, peut-être que dans 1 an, je te dirai la même chose, que c'est trop lent, mais pour l'instant, moi, franchement, je suis content,
Oui,
sincèrement.
voilà, à ton échelle, mais eux, ils aimeraient beaucoup que ce soit
Ouais, je
plus
comprends.
grand à l'échelle de Nantes, de Lille, tu vois, de Lyon.
Je comprends, ouais, c'est clair. Après, c'est à nous de faire bouger les choses aussi, c'est clair, hein. Faire bouger les choses de notre côté, parce qu'à un moment, hein, c'est pas se reposer sur les autres, mais c'est bien de bénéficier, d'utiliser les choses qui existent, mais derrière, il faut aussi trouver des solutions par nous-mêmes, faire bouger les choses, et puis ouvrir notre bouche dès qu'on est content et dès qu'on n'est pas content, quoi, pour essayer de faire bouger les choses à notre échelle.
C'est sûr que ouais, il y en a eu pas mal. Je parlais avec Geoffrey de Cuit,
Ouais.
et pour lui, il disait, ouais, il n'y a pas assez de tours de table. Enfin, tu vois, ils sont encore petits alors qu'ils sont
Ouais.
très gros et que, genre, ils ont ramassé 2-3 millions.
Oui, je comprends bien. Et en même temps, 2-3 millions, moi, ça me paraît énorme. Et des autres côtés, tu vois des levées de fonds qui sont totalement inimaginables. Mais oui, je comprends que tu es dans l'entre-deux. Ça peut être compliqué. Enfin, je pense que. J'espère pouvoir me le dire aussi un jour. Me dire, voilà, j'ai levé 3 millions,
Mais c'est
maintenant,
sûr
qu'est-ce
que
que
t'es
je fais?
content quand t'as levé
Ah
déjà
oui.
30 millions, enfin quand on
Mais
te
quand
donne
t'as un
ça, 30
cash
millions.
burn qui est. Ouais, ça fond vite. C'est pour ça que je dis 3 millions, moi, c'est énorme. Hein. Mais c'est vrai que c'est des métriques qui. Enfin, c'est des chiffres qui peuvent rapidement diminuer et faut que le business model soit costaud à côté, clairement.
Parce que genre, je sais plus, quel CEO m'avait dit, on l'a levé 1 million, on
Ouais.
a une vue sur 18 mois. Voilà.
Ouais, encore 18 mois, il a pas une grosse équipe, je pense. Hein. Oui.
S'ils ont augmenté, ils sont à 15.
Ah ouais, quand même, ok, d'accord. Parce
Bon, après,
que.
je sais pas, mais il a des commerciaux, donc je sais pas si
Oui,
c'est.
donc il compte aussi beaucoup de chiffre d'affaires à côté pour. Ouais, ok.
Il verra ce que ça donne, hein.
Ah oui, non, mais bien sûr, mais de toute façon, il y a que ça. Je veux dire. T'as pas de boule de cristal. T'as tes convictions. Tu as tes personnes qui t'entourent. Moi, je suis très bien entouré par un cabinet comptable. Je les cite, c'est KPMG qui m'accompagne très bien. Mais derrière, tu n'as jamais de boule de cristal. Et puis, le Covid, par exemple, tu vois, c'est des choses, j'espère qu'il n'y aura plus jamais de Covid ou équivalent, mais c'est des choses qui peuvent te tomber dessus, ou même toi, tu peux te casser une jambe, tu peux avoir un problème dans ta vie perso qui va faire que pendant des jours, des semaines, des mois, tu ne seras plus opérationnel. Rien n'est acquis, tout est à créer.
Alors, quel est ton plus grand défaut?
Alors, c'est une question, ouais, qui est assez compliquée. J'y ai réfléchi et moi, mon plus grand défaut aujourd'hui, je pense que c'est que je prends les choses à cœur et ça me met dans des situations où des fois, je suis pas rationnel. Je t'explique, c'est qu'aujourd'hui, Gusty, j'ai sué sang et eau pour en arriver où je suis et j'en suis encore au démarrage. Et quand je vois quelqu'un qui, bon après, comme dit, je comprends les restaurateurs qui sont harcelés par toutes les plateformes, etc. Mais quelqu'un qui me dit, bah ouais, mais ça va pas m'intéresser. En soi, il a totalement raison, il a droit que ça intéresse pas, mais moi, ça me. Je prends trop les choses à cœur, et puis des fois, ça me fait une sensation que j'aurais pas si j'étais salarié, tu vois. Si je vendais le produit d'un autre, ça me le ferait pas. Et c'est ça aussi une des choses les plus dures quand tu entreprends et que tu dois vendre ton propre produit, c'est que les gens te disent, bah non, en fait, ça me plaît pas. Et là, c'est vrai que moi qui suis quelqu'un d'assez entier, enfin assez entier, je vais pas cacher les choses, je vais pas cacher mes émotions et je suis franc. Et c'est vrai que ce genre de situation, moi des fois, ça me pèse vraiment et j'ai du. Bah, ça me fait mal, quoi, faut le dire comme ça l'est, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, prendre les choses à cœur, je sais pas si c'est un défaut ou une qualité, je vais pas faire les réponses bidons quand on te demande dans un entretien d'embauche, mais moi, c'est une des choses qui aujourd'hui me pénalise le plus.
Oui, parce que si tu restes là-dessus et que tu remets tout en question, c'est dommage.
En soi, j'avance quoi qu'il arrive. Sincèrement, j'ai appris à avancer quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que des fois, tu rentres chez toi le soir, tu dors pas, tu te dis, mais punaise, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Et en soi, derrière, j'ai des super clients, j'ai des super retours. On me dit, ouais, c'est trop cool que tu fasses ça, c'est une super initiative. Donc, en soi, voilà. S'il y avait que des gens qui me disent, ça t'intéresse pas, c'est même pas que je prends les choses à cœur, c'est que, écoute, garçon, ça tient pas la route. Mais là, il y a plus de gens qui me disent, ouais, c'est cool, ok, vas-y, on y va, que des gens qui me disent, bah non, ça m'intéresse pas. Et
Et
comme
c'est...
dit, pardon, la personne qui te dit ça m'intéresse pas, peut-être que la personne a passé une mauvaise matinée. Tu vois, il faut pas prendre les choses personnellement. C'est ce que je dis à toutes les personnes qui ont été amenées à faire du business ici, en stagiaire, alternant ou salarié. C'est faut pas prendre les choses personnellement et faut pas prendre les choses qu'elles sont pas gravées dans le marbre. C'est pas parce qu'une personne t'a dit à un moment non, tu vas pas la harceler. Mais je veux dire, tu la reverras dans 3 mois, ça se trouve, elle sera dit, ouais, bon, ce serait quand même bien de faire ça. Donc voilà.
Et bah moi, j'ai entendu qu'il fallait 7 contacts pour signer quelque chose. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Vu que
Alors,
toi, tu étais au commercial.
moi, si tu veux, j'ai eu un début de carrière assez spécial parce que j'ai fait du one shot. Okay, j'ai vendu des panneaux photovoltaïques, j'ai vendu du référencement Google dans des modèles one shot, c'est-à-dire tu viens en un rendez-vous, ton but c'est de signer à la fin. Donc c'est quelque chose d'assez hard, je t'avoue, moi c'est quelque chose qui m'a pas du tout plu. Par contre, ça a été très formateur sur au final les gens. S'ils te disent oui, je vais réfléchir ou oui, je vais voir, la personne en général, elle sait si elle veut bosser avec toi ou pas. Donc c'est vrai qu'au final, ce modèle de one shot me permettait d'économiser beaucoup de temps. Parce que là, il y a des fois des restaurants, je vais les voir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Il y en a un que je citerai pas, mais je crois que je suis allé voir 10 fois, il est super cool, il m'offre le café. Mais à un moment, voilà, il faut avancer, il faut faire du business, faut faire tourner la boîte. Donc pour répondre à ta question, j'en ai aucune idée. 7 contacts, c'est un beau chiffre, j'adore ce chiffre, mais je pense que
Ça
ça
dépend.
dépend sur qui tu tombes. Ça dépend sur qui tu tombes, ça dépend toi, comment tu es, ça dépend le lien que tu as avec la personne. Je veux dire, il y a des personnes à qui tu t'entends super bien dès le départ, qui vont être plus enclins, et encore, hein, il y a des personnes à qui je m'entends très bien, je sais que je travaillerai jamais avec eux, parce que c'est pas la cible. Ou parce que voilà, ou parce qu'ils ont déjà quelque chose en place, ou voilà, mais voilà, ouais, ça dépend. Je saurais pas te dire, c'est pas une science exacte.
Et moi, je veux savoir, qu'est-ce que tu détestes faire dans ton métier?
Alors c'est une question qui est compliquée aussi parce qu'en même temps j'aime tout et je déteste tout. Ça dépend des jours, parce qu'il y a des jours t'as envie de rien faire, il y a des jours où t'en as marre, t'as 30 mails non lus, d'ailleurs c'est le cas, t'as 30 mails non lus depuis 2 mois, tu te dis ben par quoi je commence? Et du coup j'ai dû réfléchir à tout ça et je crois que ce que je déteste le plus, je sais pas pourquoi, c'est recevoir du courrier, devoir ouvrir le courrier et le traiter.
Phobie administrative.
Oui et non, parce qu'en soi, je gère tellement de trucs administratifs, mais dématérialisés, donc ça va. Mais c'est vrai que quand je reçois une lettre, en général, c'est rare que tu aies une lettre, oui, bonjour, on va vous donner 100 000 euros. En général, c'est plus, oui, bonjour, voici la facture truc, donc tu dois la scanner, l'envoyer au comptable, la payer, etc. C'est assez relou. Et ben, la deuxième chose que j'aime le moins, c'est ranger mon bureau. Et c'est un petit peu en corrélation parce qu'il y a pas mal de lettres qui traînent non ouvertes sur mon bureau. Donc c'est ça, c'est ouais, tout ce qui est géré ouais, à la paperasse. Je pense que c'est ce que j'aime le moins.
Est-ce que tu as une anecdote honteuse ou marrante à nous partager?
Alors c'est marrant parce que ouais, y a un truc qui m'est arrivé il n'y a pas trop longtemps. Et en fait, j'étais dans un restaurant à Strasbourg. J'avais un rendez-vous juste après où j'allais être en retard. Donc j'ai dit à la personne du resto, attends, il faut que je sorte pour téléphoner. Et en fait, je me suis emmêlé les pinceaux. Je suis sorti, j'ai téléphoné, mais j'ai appelé au restaurant dans lequel j'étais.
Ah oui,
Donc voilà.
elle a dû dire, mais tu es là en fait.
Ouais, mais oui, non, je crois qu'elle a. J'espère qu'elle a pas capté que c'était moi. Je dis, ah, désolé, mauvais numéro. J'ai dit bonne journée, au revoir. Donc j'ai appelé l'autre resto. Après, je suis dans le resto. Je suis, ah, désolé, c'était un petit peu long. Mais ouais, sur le coup, j'avais un petit peu honte, mais je crois pas qu'elle a capté. Je crois pas qu'elle a capté ce qui se passait.
Submergée d'appels.
Comment?
Elle est submergée d'appels, elle a pas dû faire le lien.
Ouais, j'espère, ouais. Bon, soit voilà, c'est pas non plus catastrophique, mais c'est vrai que sur le coup, ouais, je me suis dit, bon mec, on va peut-être un peu se concentrer, quoi.
Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné?
Le meilleur conseil qu'on m'ait donné pour ma vie professionnelle, je pense, c'est mon premier manager qui s'appelle Matisse, que je salue. Il m'a fait comprendre un truc que j'essaye d'inculquer à toutes les personnes qui bossent avec moi, c'est essaye, au pire on te dira non. Et c'est ce dont on parlait avant, quand tu as dit ouais, j'aimerais bien l'appeler lui, mais j'ose pas trop. En soi, il va t'arriver quoi de pire? On va te dire non. Et il peut arriver
Ouais,
quoi de
mais
mieux? On
pour
va te dire
l'ego,
oui.
tu vois. Moi aussi, quand on me dit non,
Ouais.
ça m'intéresse pas, j'avoue, je suis là.
Bah ça fait mal.
Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que ça t'intéresse pas?
Ça fera toujours mal, mais après, comme dit, c'est pas personnel. Tu vois, c'est des choses. Des fois, c'est personnel. Des fois, la personne, elle te dit, bah écoute, non. Moi, je sais que j'ai un caractère, un franc-parler qui dérange certaines personnes. Ça m'a déjà bien ralenti dans ma vie, notamment pour rentrer à Semia, voilà. Et d'un autre côté, je me dis, voilà, on est des humains, on communique, ça peut pas passer avec tout le monde. Donc il y a des personnes qui te diront non, ça arrive, tu vois, et te disent non. Soit c'est parce que c'est le produit, enfin, c'est ce que tu lui proposes qui va pas, soit c'est toi qui va pas, soit c'est lui qui va pas. Donc à un moment, tu te formalises pas, tu continues. Il y a assez de personnes avec qui bosser pour pas s'arrêter. Oh, il m'a dit non, ben, je vais rentrer chez moi, je vais regarder Netflix, tu vois. Je pense que voilà, la base, c'est ça, c'est. Souvent, tu as le téléphone en main, tu fais ouais, mais attends, mais s'il me dit ça, s'il veut pas et tout, non, appelle, tu vois. Sois préparé, tu sais un petit peu ce que tu veux dire, mais vas-y, ose. Puis il te dira non. Et franchement, c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné.
Ben, merci d'avoir répondu à toutes mes questions.
Avec plaisir, merci à toi.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste 2 minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si tu as un iPhone. Sinon, tu peux me suivre sur Spotify. Ça me permettrait de me faire connaître en remontant, tu vois, dans l'algorithme. Ça toucherait plus de personnes et on serait une plus grande communauté à m'écouter. Tu peux aussi le partager à un ami. Peut-être que ça l'inspirera, peut-être qu'il en aurait besoin aujourd'hui pour être reboosté. Et si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.